Alors, ce matin, je vais continuer un peu la pensée que j'ai déjà développée la semaine dernière, dimanche passé. Donc, mon sujet ce matin, c'est équiper. La semaine passée, c'était ressusciter pour servir. Équiper pour combattre ce matin. Équiper pour combattre. Sachez, vous savez que notre combat n'est pas du tout charnel, notre combat n'est pas du tout contre la chair et les sangs, mais notre combat est un combat spirituel, amen, contre les puissances des ténèbres. Voilà. Donc, équipé pour ce combat-là, d'accord? Alors, cette semaine, on parlait beaucoup de quoi, d'après vous, dans le monde entier? Oh, on a parlé beaucoup de prince Philippe. On a parlé beaucoup. Il a vécu longtemps, 99 ans, bientôt 100 ans là. Et tout ce qu'on dit, c'est des bonnes choses. Et moi, je vais juste faire une petite conclusion de tout ce que j'ai entendu, partiellement, par-ci, par-là, mais chaque fois, voilà, ça revenait. Et j'aimerais tout simplement dire que cet homme, bien sûr, il était fidèle à sa femme, elle est toujours là, la reine, et il a servi, pendant toutes ces années, il a servi qui? Il a servi la nation. On est bien d'accord? Bon, c'est sûr que ce sont des circonstances, on va dire que des bonnes choses, mais il y en avait des choses négatives ou non, peu importe, on dit beaucoup de bonnes choses. Et moi, je me suis dit, ah ben, cet homme, il a servi son pays, il a servi sa nation, et il a servi aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas britanniques, dans d'autres pays aussi. Voilà. Il avait un témoignage. Donc, quelque part, il était là sur cette terre et il a laissé de traces. Il a fait du bien. Il a fait beaucoup de bien. D'accord? Même si la Bible nous dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Par la grâce, et les œuvres suivent la grâce, bien sûr. Mais cet homme était exemple, voilà, même pour nous tous, et puis toutes les récitations bibliques que nous avons entendues, peut-être pas notre sensibilité, mais peu importe, la parole est toujours la parole. Amen. Et moi, je me suis dit, cet homme, il a servi son pays, il a servi la nation, il a servi beaucoup de monde. Et puis nous, d'autant plus que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes là sur cette terre pour servir les projets de Dieu. Amen. Moi, j'ai compris donc, quand j'étais jeune que je suis là, et puis pendant toutes ces années voilà, qui sont passées, souvent je me suis posé la question, mais pourquoi finalement, Seigneur, je dois me décarcasser pour ça, prendre des risques là, pour l'œuvre de Dieu, et pourquoi tout ça? Mais chaque fois, j'ai compris, comme si le Seigneur m'intervenait pour me dire, sers mes projets. Tu es là pour servir le projet de Dieu. Allô? Amen. Nous sommes là pour quelque chose. Nous ne sommes pas là tout simplement, voilà. Quelque chose qui passe. Oui, la vie passe très vite, mais nous sommes là pour servir le projet de Dieu. Et déjà pour commencer ce matin, nous sommes dans un projet de Dieu. C'est le culte. Tout simplement. Amen. Eh ben moi, je suis arrivé ici ce matin à 9h30, c'est ça? Il y avait déjà quelques voitures. Pourquoi? Parce que les gens se lèvent pour servir le projet de Dieu, servir Dieu. Pour que notre culte soit mieux possible, agréable à Dieu. Ce ne soit pas juste quelque chose pour bien faire, mais pour que Dieu puisse être honoré. Amen. Et puis d'autres qui sont un peu moins respectueux, je m'excuse d'avance pour vous parler comme ça, qui viennent un peu au retard. Et ce n'est pas très respectueux. Pardonnez-moi que je vous parle comme ça, pour ceux qui viennent au retard. Il faut mieux venir au retard que pas du tout, hein. Mais c'est quand même important. Chaque seconde, chaque minute, chaque geste a une importance. Amen. Imaginez-vous si vous prenez le TGV et qu'il part à 10 heures et vous arrivez à 10 heures, à 10 heures. Ah ben c'est déjà trop tard. Allô? C'est déjà trop tard. Il faut venir 10 heures moins 5. Mais 10h05, ben le TGV, il est déjà loin. Excusez-moi. Hein. Donc vous voyez, tout est important. Le culte, c'est tout ça. C'est d'être là à l'heure. C'est d'être là positif. D'autres personnes viennent déjà avant pour préparer le culte, hein, pour que ce culte puisse... Pour que là, comme Aurélie disait, voilà, j'étais triste, etc. C'est son beau-papa qui est décédé. Il était encore jeune. Voilà, mais elle a commencé à louer le Seigneur. Elle a commencé à adorer Dieu. Il y a une libération qui arrive. Parce qu'on rentre en relation avec Dieu. Et quand l'Église rentre en relation avec Dieu par les billets d'un culte, ah ben voilà, nous sommes bénis, nous recevons des bénédictions, des guérisons, des consolations. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pensé au prince Charles, Philippe, d'accord? Mais nous, en tant que l'Église, nous sommes là pour servir quelqu'un, pour servir, bien sûr, Dieu directement par la louange, servir Dieu, l'Église, mais servir aussi le monde. Voilà, nous sommes là pour servir le projet de Dieu. Alors, on va prendre le premier texte de la parole de Dieu. Jérémie, le verset 23. 23. Et puis, vous allez voir que pour servir le projet de Dieu, nous avons besoin, donc, puisque mon sujet, c'est équiper pour combattre, nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin des armes spirituelles pour pouvoir combattre un bon combat. La Bible nous parle d'un bon combat. Il faut faire un bon combat, mais pas un mauvais combat. Il ne faut pas se tromper non plus des ennemis. Hein. Alors, Jérémie nous dit, 23, le verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Alors, vous pensez, vous voulez... Voilà, on ne va pas détailler, on ne va pas... donner toutes les qualifications au feu, mais vous savez que le feu, bibliquement, nous représente aussi le Saint-Esprit, mais aussi la destruction, mais aussi quelque chose qui purifie, voilà, parce que notre foi, parce que le feu représente aussi les épreuves, puisque notre foi est éprouvée par le feu, comme de l'or qui est purifié par le feu, tout ce qui est impur est brûlé et tout ce qui a une valeur reste. Voilà. Donc ici, Jérémie nous dit, ma parole, donc de la part de Dieu, n'est pas comme, elle n'est pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau, qui brise les rocs, d'accord? Donc, cette parole est comme le feu qui détruit tout ce qui, je me répète, tout ce qui est impur, d'accord? Et comme un marteau qui brise les rocs, tout ce qui est difficile, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Ah ben, la parole de Dieu brise, casse, comme un marteau. Vous allez prendre un marteau, vous allez taper sur le roc, et puis voilà, ça va se casser, d'accord? Donc, finalement, pour nous, pour toi et moi, la parole de Dieu fait partie d'une arme, comme le feu. comme un marteau. Donc, quelles sont nos armes pour combattre un bon combat? Bien sûr, la parole de Dieu, vous avez compris. La foi, notre foi, ta foi, ma foi, notre foi. Nous pouvons faire beaucoup de choses par la puissance de la foi. Et cette foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vous ai dit dimanche dernier, il faut lire la parole de Dieu, et il faut prier, il faut nourrir la parole de Dieu, parce que ben, nous avons des combats, ça a été parlé aujourd'hui, il dit, il y a des fardeaux, il y a des difficultés, etc. Et puis là, nous devons combattre, et nous avons besoin d'une arme, d'accord? Et puis pour que ces combats tombent, voilà, soient vaincus, ben, nous avons besoin d'une voix, une voix forte, d'accord? Mais cette voix-là, il faut la nourrir par la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut digérer, et ensuite il faut prier, il faut proclamer, il faut prophétiser cette parole de Dieu, et puis les choses bougent, les choses changent. Amen. Voilà. Donc, la parole, la foi, l'autorité. Regardez un policier. Je ne sais pas si tout le monde s'est fait déjà arrêter. Moi, je me suis fait arrêter dans ma vie à plusieurs reprises pour le contrôle ou pour une chose ou pour une autre. Voilà, les policiers, voilà, ils nous font un signe pour dire ben, arrêtez-vous, mettez-vous sur le côté. Et vous ne discutez pas parce que vous êtes conscient, c'est naturel. Il a une autorité pour ça. Mais si c'est Fred qui sera à côté de le policier et il va dire la même chose, ben ça ne va pas marcher, hein, Fred. Bon, Fred, ça représente tout le monde. Hein. Philippe, ça va pas. Si tu vas dire. Quelquefois, ben, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous avez besoin d'une aide? Non. Mais les policiers, vous vous arrêtez. Sinon, vous connaissez les conséquences. L'autorité. Voilà. Mais l'autorité surnaturelle, l'autorité de la part de Dieu, c'est que les puissances de ténèbres, voilà, reculent, les puissances de ténèbres sont vaincues par cette autorité, voilà. Ces puissances de ténèbres doivent nous obéir. Quelquefois, ça m'est déjà arrivé, que je me suis directement adressé au démon pour dire « Démon, le démon !» Maintenant, tu ne vas pas t'exciter, tu ne vas pas hurler maintenant, tu ne vas pas crier, il y en a marre maintenant. Tu te calmes, ferme ta bouche, mais tu sors. Ah, il ne sort pas encore. Ah ben, je dis maintenant, tu vas m'obéir. Au nom de Jésus, tu pars. Et il part. Et sinon, ben, on passe toute la nuit, il n'y a rien qui se passe parce qu'il nous nargue. Donc, vous voyez l'autorité. Nous avons voilà notre arme. Nos armes, c'est la foi, la parole, la foi, l'autorité et aussi la prière. On va lire encore deuxième texte de la parole de Dieu. Donc, deuxième épître de Corinthiens, chapitre 10, et les versets 4 et 5. 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons, c'est Paul qui dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, ça veut dire que lui-même, il était intégré dans cette action, nous combattons. Alors aujourd'hui, vous et moi, nous combattons. Mais on peut se poser la question, est-ce que nous combattons vraiment? Ou tout simplement, on observe. On est indifférent. Donc, je répète, car les armes, donc, on lit bien, hein, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, c'est-à-dire la parole de Dieu, la foi, l'autorité, la prière, il y en a plus, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alors, pour faire quelque chose, pour vaincre des oppositions ou un ennemi, pour même si c'est juste pour déplacer quelque chose, ben on a besoin, d'une force, une puissance physique. D'accord? Et là, il est question, voilà, des armes spirituelles, elles sont puissantes. C'est-à-dire que la parole de Dieu est puissante, elle a une puissance, amen, elle a une puissance pour le salut de celui qui croit. Donc vous voyez, la foi, elle a une puissance, l'autorité est la même chose, une puissance, elle est puissante, et aussi il y a une puissance dans la prière, amen. C'est pas juste dire, mais si vous priez selon la parole de Dieu, avec la foi, avec l'autorité, ben cette prière déplace, détruit les oppositions, les forteresses. Alors, on revient encore à ce verset, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Pour renverser ensemble, pour renverser des forteresses. Alors, c'est quoi ces forteresses? On va lire encore un verset. Nous renversons, une fois de Paul, il est intégré dans cette action, nous. Il ne nous dit pas, vous devez renverser, mais il dit lui-même, nous renversons. C'est-à-dire qu'il est conscient que c'est possible. Et il est conscient qu'il faut faire. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors j'y reviens sur cette expression, nous renversons les raisonnements. Dimanche dernier, je vous ai donné un exemple de ce dialogue entre Jésus et disciples, et tout à coup les disciples commencent à discuter entre eux, puis se posent la question, mais qui est plus grand parmi nous? Vous comprenez? Mais pourquoi on doit se poser cette question? C'est une conversation vraiment charnelle, pas du tout spirituelle. C'est quelque part, il y avait l'égoïsme, il y avait l'orgueil. Mais qui est plus grand parmi nous? Et puis chacun pouvait dire, bah, finalement, c'est certainement moi. Hein. C'est toujours moi. Donc vous voyez, ça c'est, moi j'appelle ça le raisonnement. C'est une philosophie. Voilà. Voilà. Et puis Jésus était là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit, il a appelé un enfant, et puis il dit, si vous ne soyez pas comme cet enfant-là, ah ben, ça va être compliqué pour vous, hein, mais si vous voulez être plus grand là-bas, dans l'éternité, ben, soyez comme ce petit bébé, comme ces enfants. Amen. Puis c'est difficile pour nous, les personnes adultes, etc., de s'humilier comme ça, mais qui sommes-nous sans Dieu? Alléluia. Quelle grâce, ben, Dieu, si je dois être comme un enfant, ben, pour être grand là-bas, important. C'est formidable, là. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, Jésus était tout de suite là pour briser ce raisonnement humain, tout simplement. Donc, vous voyez, il y avait une forteresse tout de suite. Quand Jésus est là, donc je me souviens de la prédication d'Alexis, quand Jésus est là, quand Dieu est là quelque part, eh ben, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que nous collaborons ou nous travaillons avec Dieu, puisque nous proclamons la parole, et Dieu confirme la parole de Dieu, et les puissances des ténèbres, les forteresses tombent. Amen. Ah, c'est vraiment bien, quel statut. Chaque fois que je pense à ça, oh là là, Seigneur, c'est quelle bénédiction, mais je n'ai pas mérité cette bénédiction. Amen. C'est beau ça, c'est formidable. Voilà donc, vous voyez, on revient encore à ce verset. Donc en même temps, nous renversons les raisonnements, d'accord? Voilà, je vous ai donné un témoignage. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la volonté de Dieu, on peut dire aussi. Amen. Autour de nous, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de philosophies, beaucoup de mensonges qui viennent nous dire que c'est autre chose, mais ce n'est pas vraiment Dieu. Est-ce que Dieu existe? Voilà, on diminue la grâce de Dieu, etc. Beaucoup de choses que nous voyons autour de nous et pour diminuer, pour sous-estimer, pour rejeter la volonté de Dieu. Et nous sommes dans toute pensée, même la pensée, vous voyez, pensée, hein, c'est ces disciples qui discutaient, ça venait de là, le raisonnement, les pensées, on pense que, vous comprenez? Et puis là, Paul dit, toute pensée captive, quelque part, nous avons des pensées captives, en prison, complètement, pensées captives. Donc il faut, ce qui voulait dire que nous faisons tout pour ramener ces, même les pensées qui sont captives à l'obéissance. Mes pensées, je fais un geste, hein. Ah. Obéissez à la parole de Dieu, obéissez au Christ. Amen. Il y a tellement de mensonges autour de nous. Sur les plans spirituels, religieux, les traditions, les habitudes, il y en a tellement. Alors, Paul voulait que tout ça, même ses pensées, ses raisonnements, soient tout ça emmené à l'obéissance de Christ. Amen. Je pense à quelqu'un. Et il voulait vraiment s'en sortir. Il avait des problèmes avec l'alcool, avec la drogue. Et on discutait, on t'aime beaucoup. Ça va aller. Ensuite, il y avait aussi le mensonge. Le mensonge, parce qu'on voulait me dire que oui, ça va mieux, et puis finalement, c'était pas du tout mieux. Puis j'ai partagé ça avec quelqu'un. C'était dans notre église déjà un petit moment. Et cette personne, elle a pris le téléphone. Et vous, sans vous raconter tous les détails, mais c'est juste pour vous dire combien cette personne, elle a confessé ses péchés. Combien cette personne, elle a dit, je ne peux pas continuer comme ça. Combien cette personne, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être libéré de tout ça? Et puis là, on téléphone la personne en question, priait pour cette personne, et il y avait une repentance réelle, une libération totale, une victoire totale. Et puis tout à coup, on voit la personne totalement changée. Nous sommes là pour servir les projets de Dieu. On a pu libérer quelqu'un de cette façon-là. Nous sommes allés il y a 2 semaines avec Aurélie et Joanne à l'enterrement de son papa, le papa de Joanne. Et je suis allé juste, même pas pour prêcher ou quoi que ce soit, je suis allé pour soutenir Aurélie et Joanne. 700 kilomètres pratiquement, ou 600, entre 600 et 600 plutôt. C'est pas à côté. Et voilà, ils nous ont vraiment demandé, puis nous sommes allés. Et puis voilà, on arrive là. Puis à la famille, etc., la réunion. Et puis après la réunion, après cette, à la fin de cette cérémonie, il y a un monsieur qui vient nous voir. Il vient nous voir. Il est assis. Bonjour. Et voilà, donc, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui nous connaissait bien. Mais qui, quoi? Voilà, j'ai complètement oublié. Et c'était l'oncle de Joab. Et il nous a parlé. Il était tellement gentil avec nous. Et il nous a dit, mais vous logez où? Ben, à l'hôtel, on ne veut pas trop aller chez des gens, c'est la situation actuelle comme ça. Ah, vous aurez pu venir à la maison, etc., etc., etc. Et ce monsieur, il était là, au mariage, il y a combien d'années? 5 ans. Il était là. On a eu juste le contact. Il ne me connaît pas. C'est ça. Et il a dit à Joanne, ah, ton beau-père, c'est vraiment un pasteur. Quelqu'un qui est anti-pasteur, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il dit, Antoine, il est différent. Je ne sais pas, il a eu certainement une mauvaise expérience. Quelque part. Pourtant, quand ils sont venus au mariage, ce n'est pas moi qui prêchais. On s'est juste parlé. Et il me dit, et il nous invite. Il y a une mission qui se prépare là-bas dans la famille. Parce que c'est l'attitude. Ah ben, moi, on me dit, je suis d'origine catholique, mais pas pratiquant. Et moi, je lui ai dit, je ne suis pas anti-catholique, je suis anti-personne. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'aime pas les péchés. Le principe, c'est ça. Dieu aime tout le monde. Tu es catholique, tu es musulman, tu es juif, tu es évangélique, protestant, athée, ça existe. Dieu s'en fiche de tout ça. Dieu veut te libérer. Dieu veut que nous soyons libérés de la condamnation éternelle, que nous soyons libres comme ça a été changé, c'est-à-dire libres du péché, de la condamnation. Nous étions condamnés, liés par les péchés de nos premiers parents. Et il nous a libérés. C'est ça la liberté. Je suis libre de tout ça, je ne suis plus en prison spirituelle et je suis un enfant de Dieu. Formidable. Donc, juste pour vous dire, chaque fois quand j'ai des bénédictions comme ça, j'ai dit, ah ben, c'est formidable Seigneur, parce que mon attitude, ma parole, mon sourire, quelquefois mon silence, souvent, quand j'arrive dans certaines situations, vous voyez, je suis quelquefois même, j'étais quelquefois piégé parce que, voilà, on a réuni des gens, puis on a vu d'Antoine, et puis il est le pasteur, il va tout faire. Ben non, moi je ne peux pas faire plus que Dieu, on est bien d'accord. Et moi, quelquefois, le Seigneur me demande, garde le silence. Montre-leur que tu n'as pas besoin de prêcher partout. L'attitude. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous allez bien. Pas plus. Et quelquefois, c'est impressionnant comment ça marche. Les gens sont touchés et puis les gens veulent nous rencontrer. Parce que Dieu est avec nous et nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Et voilà, quelque chose qui attire ceux qui ont besoin de la libération, la vie. Quelque chose qui les attire vers la bénédiction, vers la vie. Et nous serons un jour ensemble avec le Seigneur. Je pense aussi à Christiane et à moi-même. Voilà. On était tout jeunes. Un appel de Dieu était sur nous. Ça, vous le savez, j'ai vécu en Pologne jusqu'à 19 ans. dans un pays à l'époque totalitaire, communisme, les églises clandestines. J'ai prié dans des petites pièces, comme des sardines. On était regroupés. Mon père qui priait dans la forêt avec d'autres, qui priait dans les caves, etc., pour être libre dans le Saint-Esprit, Dieu leur parlait, etc. Et puis, quand je suis venu en France, le monde était différent. J'arrive là, une belle salle. J'arrive là-bas, il y a la musique. Je n'ai jamais vu un instrument à l'époque. Pas vu un instrument. Comment vous pouvez avoir un instrument dans une pièce où vous êtes à 50 dans 15 mètres carrés? C'était pas du tout. Voilà, c'était juste la prière, la foi, puis servir Dieu, écouter, etc. Et j'arrive là, et tout a été vraiment différent. Pour moi, il y a des moments où je disais, mais Seigneur, mais pourquoi il y a une telle différence? Pourquoi mon père était en prison pour l'Évangile? Mais en France, il y avait aussi la persécution. C'est ça, hein? Fred, tu connais l'histoire, non? Huguenots sont dans le monde entier, hein? Parce qu'il y avait la persécution aussi, en France. Vous savez, non? Voilà. On a tué des gens aussi en France. Mais voilà, je reviens à moi. Hein. Et puis tout à coup, voilà, il y avait des gens autour de nous. Et je me suis rendu compte qu'il fallait les réunir. Très jeunes, hein, on était juste après le mariage. J'avais 24 ans. Et puis j'ai rencontré un pasteur de Liège. Il avait 3 ans plus jeune que moi. Mais il avait plus d'expérience, voilà, parce qu'il a vécu ici, il a vu des choses en Italie, etc. Et je lui ai dit, mais tu sais, je ne sais pas comment faire, mais tu sais, moi, j'ai aucune expérience dans ce domaine-là. Pour avoir une salle, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je sais que ça ne va pas tomber du ciel. Il faut réunir les gens. Ah ben, il dit, tu sais, il dit, tu commences à donner de l'argent. Il y a une part pour l'œuvre de Dieu, pour servir le projet de Dieu. Et au moment où toi, tu vas commencer, les quelques personnes qui sont avec toi, ah ben, ils vont comprendre et vous allez voir, très vite, vous allez pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu dans ce domaine. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons pu servir le projet de Dieu dans les bâtiments. Nous avons pu servir Dieu aussi dans la famille. Quelquefois, Christiane, elle m'a même dit, tu es plus béni financièrement pour l'Église que pour la famille. Elle n'était pas jalouse, mais quelquefois elle m'a dit ça. Mais les bénédictions tombaient aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement beau. Voilà, nous sommes équipés de armes spirituelles dans tous ces domaines-là, et les choses bougent, et les choses changent, et Dieu fait tout pour nous changer si nous sommes avec le cœur ouvert. Voilà, nous sommes sincères, nous sommes vrais devant Dieu. Ah ben Dieu, nous change nos raisonnements, nos pensées aussi. Voilà, il change nos pensées captives. Voilà, et il y a des choses qui bougent et nous sommes heureux avec Dieu. On va se lever ensemble.